France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le 8 octobre 2025, le quotidien britannique The Guardian a publié sur son site la liste complète des enfants morts à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023 et les massacres commis par le Hamas en Israël. 18 457, c'est le chiffre obtenu par les autorités palestiniennes à partir de l'enregistrement des dépouilles dans les rares hôpitaux de Gaza en activité et qui ont délivré des certificats de décès. 18 457 enfants, un chiffre que le quotidien britannique estime d'ailleurs sous-estimé en raison des nombreux corps qui n'ont pas encore été extraits des décombres de bâtiments détruits et qui ne prend pas en compte non plus les victimes indirectes comme les 147 enfants morts de faim, d'après l'UNICEF cette fois. Quand c'est possible, à côté de leur nom, le quotidien a aussi ajouté une photo de l'enfant, une petite biographie et les circonstances de son décès. Pour que l'opinion prenne conscience aussi du prix qu'ont payé les enfants dans cette guerre, l'UNICEF avait indiqué en janvier 2025 que toutes les 10 minutes, un enfant était tué ou blessé à Gaza. C'est le deuxième épisode tout de suite de notre série sur les enfants et la guerre. Il ne s'agit pas, je le précise, de comparer les conflits entre eux, mais de raconter la guerre, les massacres, l'horreur, à travers les yeux des enfants, ceux qui devront un jour faire la paix, ceux qui vivront le plus longtemps avec ce traumatisme. Aujourd'hui, nous sommes avec Alaa, une petite fille palestinienne de 10 ans, avec elle on va essayer de comprendre ce qu'a été sa vie pendant les deux dernières années. Ce qu'elle a vu et vécu, à quoi ressemble aujourd'hui son quotidien et surtout, quelle stratégie de survie elle a mise en place, quelle part d'enfance elle a réussi à conserver. Un récit de Clément Baudet avec Rami Abou-Jamas.
Je m'appelle Alaa Mohamed, j'ai 11 ans.
قاعدين في خيمة في تل الهوى جنبنا دور مكسوفة وقاعدين في أرض هيك للناس.
Autour de nous, il y a des maisons bombardées et nous, on est sous une tente dans un bout de terrain qui appartient à d'autres personnes.
تسعة أنفار. قاعدين كلنا في خيمة وهنا بنعاني معاناة الشمس والثلوب.
On est neuf personnes sous cette tente. On vit tous dans cette tente et on souffre de la chaleur. Parce que nous, notre tente, c'est des bâches très, très fines. Et c'est pour ça que quand il y a le soleil très chaud, on souffre. Et pareil pour l'hiver, quand il pleut, on souffre aussi à cause de la pluie.
Elle s'appelle Alaa. Et en fait, elle n'a que 10 ans. Sur la photo qu'elle nous a envoyée, elle a les cheveux tirés en arrière et bien peignés. Elle regarde l'appareil photo d'un air déterminé, mais elle ne sourit pas. Depuis le début de la guerre, elle a cessé d'être timide.
Oui, par exemple, avant, au début, j'étais un peu timide quand j'allais pour l'eau ou bien pour le tequila. Mais après, là, les gens, ils commençaient à crier et tout. Maintenant, j'ai plus peur, je suis plus timide. C'est mon droit aussi d'avoir de l'eau et à manger aussi. Donc, je suis plus timide.
Sur la photo, elle tient une grande marmite entre les deux mains. Elle est en train de faire la queue pour de la nourriture, dans une taquilla, une soupe populaire alimentée par une des rares associations locales qui reste debout à Gaza.
Normalement, le taquilla, c'est à midi, mais nous, on va à 10h du matin pour faire la queue. On attend pendant 2 heures pour qu'on sera servi. Oui, j'y vais, moi et ma sœur, qui est un peu le même âge que moi, et mes deux copines. On va et on fait l'accueil pour remplir les casseroles et puis on rentre.
Et comment elles s'appellent, tes copines?
Rahaf
et Dima. Elles habitent juste à côté, mais pas sous une tente, plutôt dans une maison. On est un groupe, on fait tout la même chose toute la journée. Moi, je passe les prendre et on y va ensemble.
Parfois, les distributions d'eau ou de nourriture tournent mal à cause des resquilleurs. Et Alaa rentre les mains vides.
Souvent, il y a des problèmes et des bagarres. Parfois, quelqu'un, il avance un peu avant l'autre. Et donc, du coup, c'est les bagarres commencent. Et ça finit parfois par le chauffeur de la citerne d'eau. Il part avec sa voiture et sa citerne d'eau. J'ai peur que ça bombarde à côté de moi quand je fais la queue pour la citerne d'eau ou bien pour les tequillas. J'ai peur d'être blessé et de trouver personne pour me secourir. J'ai eu cette peur quand mes cousins ils sont allés chercher de l'eau et ils étaient tous blessés. Il y a à peu près 2 mois. Ils ont bombardé juste à côté de la citerne d'eau et il y a eu beaucoup de blessés et il y a eu les ambulances qui sont arrivées, ils ont pour secourir les blessés et mes cousins étaient avec eux.
Avec Alaa, on s'est parlé au téléphone pendant plusieurs semaines, quand c'était possible. Voici quelques bribes de son histoire. Une vie d'enfant grandit trop vite, une vie d'enfant sans enfance. Rami, celui qui traduit, m'explique comment tout a changé pour Alaa.
Maintenant, elle peut bousculer, elle peut pousser les gens pour un jerrycan d'eau, pour le tequila. Alors qu'avant, si tu lui donnais un jerrycan et tu lui dis « remplis le truc », elle te dit « non, j'ai honte ». Et pareil, tu lui donnes une casserole, tu lui dis « remplis le casserole pour aller tequila pour faire la queue ». Il dit « mais non, je ne ferai jamais ça ». Alors que là, tout a changé.
C'est grâce à Rami que j'ai connu Alaa. Parce que le père d'Alaa est un ami de Rami. Et Rami Aboujamous, c'est quelqu'un que connaissent presque tous les journalistes francophones qui s'intéressent à Gaza. Marine Vlahovic, qui était correspondante dans la région pour de nombreux médias et que nous aimions beaucoup au pied sur terre, en faisait évidemment partie. Quelques mois avant qu'elle ne nous quitte, Marine a rendu hommage à Rami dans son dernier carnet de correspondante, qui s'appelle Gaza Calling, enregistré et diffusé sur Arte Radio dans les mois qui ont suivi le 7 octobre 2023.
Salut ma Marine, on a pris la décision de ne pas partir.
Rami est l'un des derniers journalistes à rester à Gazaville.
On verra d'ici demain comment ça va évoluer les choses.
Rami, c'est LE fixeur francophone de référence à Gaza. Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. C'est lui qui m'a surnommé Marine la machine. Ce n'est pas seulement un fixeur ou un traducteur. Il est bien plus journaliste que nous tous. Les journalistes occidentaux réunis sur sa boucle WhatsApp. Il poste des images, des infos précieuses, des analyses éclairées. Il commence toujours la journée par ce message.
Salut les amis, toujours vivant. Salut les amis, toujours vivant. Salut les amis, toujours vivant.
Salut les amis, toujours vivant.
Salut les amis, toujours vivant.
Le fait de rester, c'est vraiment un choix. C'est pas un suicide.
Rami est resté dans l'appartement familial avec Sabah, son épouse, les fils de Sabah, qu'il considère comme ses enfants, et Walid, leur petit de 2 ans et demi.
C'est un choix parce que le départ, c'est l'humiliation totale. Partir à pied, faire des kilomètres à pied, aller au sud dans des tentes, etc. Mais croyez-moi, le choix de rester, c'est mourir en dignité que voir cette humiliation.
Mais un jour, l'armée leur donne 30 minutes pour partir. Ils sortent avec un drapeau blanc. Rami filme tout avec Walid dans ses bras.
Ça va, Baba? Hein? Bravo, Baba, je suis fier de toi, Baba. Yalla.
Papa, maman.
Yalla, maman, elle est là, maman.
Rami et sa famille trouvent refuge dans le sud de la bande de Gaza.
2 ans plus tard, Rami est toujours vivant.
Comment ça va, Clément?
Ça va bien, et toi?
Ça va, toujours vivant.
Il continue d'alimenter sa boucle WhatsApp. Et quand il ne travaille pas avec d'autres journalistes, Rami a trouvé une façon de faire oublier la guerre à son fils Walid. Il s'inspire d'un film de Roberto Benigni, l'histoire d'un père dans un camp de concentration qui fait croire à son fils que tout ce qu'il vit est en jeu, comme il le racontait à Marine.
Baba, elle est où la tomate? Les concombres.
Walid, il regarde les légumes, comme s'il avait vu le Père Noël.
C'est à combien le concombre? Un, deux... Et 3, bravo! Applaudis, Baba, applaudis, dis donc! Applaudis, Habibé. Bravo.
Pour lui faire croire que la guerre est un jeu, Rami joue à La vie est belle avec son fils. Les bombardements israéliens se transforment en feux d'artifice qu'il applaudit à tout rompre.
Je suis fier de toi, je suis fier de toi.
Les drones, qui hantent le ciel de Gaza pour surveiller et tuer, deviennent des oiseaux.
C'est pour ça aussi qu'on s'est adressé à Rami. Parce qu'il sait à quel point les enfants ont besoin de le rester. Pendant toutes les semaines où je parle à Ala et que Rami traduit, je lui pose des questions basiques. Où elle habite? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle joue? Ou bien juste comment ça va? Et souvent, elle répond ça.
Ça va, on est toujours vivant.
Au début, Ala et Rami se sont vus en vrai.
Oui, salut Clément.
Et moi, je les appelais via WhatsApp.
Oui, je suis avec Ala.
Mais quand ça n'a plus été possible, on a dû utiliser plusieurs téléphones.
Allô? Tu m'entends?
J'appelais Rami.
Là, je vais appeler Ala à notre numéro.
Qui lui a ensuite, avec un autre téléphone, appelé Ala.
Allô? Hey, Clément, me dire qu'il m'a qui est Alou. Elle est avec nous, là, sur l'autre ligne. Si tu veux poser des questions, elle est prête.
Ala a grandi dans la ville de Gaza. Son père travaillait comme ouvrier à la maintenance d'un hôpital. Avant ça, il était gardien d'immeuble chez des amis de Rami. C'est comme ça qu'il la connaît. Ala a grandi avec ses 6 frères et sœurs.
On a une à l'université, on a un qui fait son bac cette année, on a d'autres, il est en troisième, et d'autres en sixième et d'autres en cinquième primaire.
Et donc toi, t'es au milieu?
Non, je suis la dernière.
Diana, la plus âgée, elle a 20 ans. Et il y a aussi Jihan, Shahed, Saeb, Ali et Taher, qui a 15 ans. C'est le plus proche d'Allah. Mais c'est aussi avec lui qu'elle se dispute parfois.
La dernière dispute, c'était ce matin, parce que j'ai pris sa bicyclette et je voulais faire un tour et il ne m'a pas laissé. Et donc, parce qu'il n'aime pas que quelqu'un prenne sa bicyclette. Donc, on s'est disputé. Parfois, il est allongé, je passe et je marche sur ses pieds. Il commence à être fâché, il veut me frapper.
Mais la plupart du temps, ils sont très unis.
On essaye tous d'être une seule main.
Toute la famille d'Ala est originaire du quartier de Tal el-Hawa à Gazaville, une zone peuplée, vivante avant la guerre. Mais 3 jours après le 7 octobre 2023 et les massacres commis par le Hamas en Israël, la maison d'Ala est détruite par des bombardements et la famille s'installe sous une tente à côté des décombres. Ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, Ala et sa famille déménagent, enfin se déplacent, 7 fois en moins de 2 ans. Tout ça dans une bande de terre d'environ 40 km de long. Le 13 octobre 2023, après un ordre d'évacuation sous 24 heures, Ala quitte la tente dans les décombres et se déplace au sud de Gazaville, à Nousserat. Elle y passe 2 mois. Le 26 décembre, Ala et sa famille fuient l'avancée de l'armée israélienne, encore plus au sud, à Khan Younes. 1 mois plus tard, face à l'offensive d'Israël sur Khan Younes, qui sera quasiment rasée, les 9 personnes reprennent la route vers le sud et s'installent sous une tente à Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Ici, il y a plus d'1 million de réfugiés. Début mai 2024, à peine 4 mois plus tard, l'armée israélienne lance une offensive sur la ville de Rafah. La famille d'Ala remonte au nord et s'installe à Zawaïda. À chaque fois, il faut trouver un bout de terre pour mettre la tente et de quoi manger. Ici, Ala reste 3 mois. Et puis avec ses frères et sœurs et ses parents, il retourne à Rafah, rejoindre des cousins. C'est à Rafah que le 21 août 2024, la mère d'Ala est blessée. Elle est touchée par un drone, au bassin et au ventre. Ala le raconte comme ça.
On était sous notre tente à Rafah et d'un seul coup, il y a une balle qui a blessé ma maman qui vient d'un hélicoptère Apache. Elle a été opérée à Rafah. Aujourd'hui, alhamdoulilah, elle va mieux. Merci Dieu, elle va mieux.
Le 7e déplacement, c'est quand ils quittent à nouveau Rafah pour Zawaïda. C'est leur plus long séjour. presque 5 mois. Et puis, ils retournent à côté des décombres de leur maison, dans leur quartier de Talelawa, à Gazaville, au point de départ, ou presque. On en est là, la première fois qu'on s'est parlé avec Allah, tout début septembre. Mais à ce moment-là, Israël a déjà ordonné l'évacuation de la ville de Gaza. 2 jours plus tard, le quartier d'Allah est bombardé et la tente est endommagée. Et pour la 8e fois, la famille reprend donc la route, à pied, jusqu'à la ville de Dar el Balah.
Tout a commencé avec les robots explosifs. On les appelle robots, mais plutôt ce sont des blindés qui s'explosent et, avec des télécommandes. Ils sont arrivés dans notre quartier, ça s'est explosé. On a pris fuite dans le bâtiment de notre oncle. Et puis ça a bombardé à côté. J'ai perdu 2 cousins et il y en a d'autres qui sont toujours sur le décombre, mais ils ont réussi à les faire sortir sur les décombres.
Les robots dont parle Allah, ce sont des véhicules blindés de transport d'armées en fin de vie qui ont été transformés en véhicules suicides. Ils sont chargés d'explosifs et dirigés à distance. Et les cousins qui sont morts, il y en a 9. Il y avait 5 filles et leur mère, mais aussi Tasnim, Allah et Fatma. C'est comme ça que le dit Allah.
Quand ça a explosé et que j'ai perdu mes cousins et que ça a bombardé juste à côté de chez nous, chacun il a mis quelques changes, c'est-à-dire des habits de change, dans sa valise ou bien son sac à dos, et puis tout le monde est parti avec ça.
On avait juste une seule bouteille d'eau pour tout le monde. Et on a fait tout le trajet d'un seul coup, parce que si on va s'arrêter, on sait très bien avec la fatigue, on ne va pas bouger après. On est arrivé à Nocerat, on a respiré un peu à Nocerat, et puis on a continué à Dar el Balah, là où il y avait le bout de terrain. Et une fois arrivé au bout de terrain, on a mis les affaires, et mon père et mes frères, ils ont commencé à installer du bois et des bâches pour faire des tentes.
À Dar el Balah, il faut encore une fois tout recommencer.
Donc là, on est à Dar el Balah, dans ce qu'on appelle Douar de l'Berka, c'est-à-dire rond-point de l'Berka. On a installé une tente. Il y a notre famille et mes cousins à moi qui ont perdu leur père. On est à peu près 17 personnes sous une seule tente. Et ici, on n'a pas de l'eau potable. Donc il faut acheter de l'eau potable. On achète le 10 litres à 2 shekels. Pour l'eau normale, on a à côté de nous une station. Et donc, ils nous donnent un tuyau pour remplir de l'eau pour la vaisselle et autres. Il y a mon frère qui est toujours au bout de la rue pour voir si Teki arrive. Et en même temps, quand Teki arrive, les gens ils commencent à crier que Teki est arrivé, Teki est arrivé.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines soupes populaires, les taquillas, changent de lieu.
D'habitude, c'est des endroits fixes, mais là, c'est des voitures ou bien des camions qui arrivent à chaque camp de réfugiés, de déplacés. Ils commencent à distribuer et puis ils partent.
Et puis, dans le tout petit sac qu'a pris Allah avec elle, il n'y a que quelques vêtements. Et c'est en train de devenir un vrai souci.
Malheureusement, les habits qu'on a, à force de les porter, c'est très abîmé. Et ceux qui sont très abîmés, on les utilise pour faire le feu. Et maintenant, chacun lui reste juste 1 ou 2 changes pour changer d'habit. Là, je porte juste un pantalon et un t-shirt manche courte. Et pour les chaussures, la majorité, ils sont restés à Gaza. Donc là, je porte des tongs. Là, il fait très froid et on n'a pas de couverture et on ne sait pas comment faire. Et on a honte de demander aux gens de nous amener des jets de couverture parce qu'il n'y a pas de couverture.
Mais depuis le début, il y a 2 choses qui préoccupent vraiment Allah. Ce qu'elle veut déjà, c'est aller à l'école. Rami m'avait prévenu.
Avant la guerre, elle était très, très brillante à l'école. Et c'est pour ça, si tu remarques, à chaque fois, elle répète l'école, l'école, l'école. Elle était toujours la première à l'école, pas à sa classe, mais à l'école. Elle aimait lire, elle aimait découvrir, elle aimait jouer. C'est vraiment un enfant très ambitieux qui veut vivre comme n'importe quel autre enfant dans le monde.
Et la nuit, elle rêve aussi de l'école.
Le dernier, c'était avant-hier. Je me rappelle que j'ai rêvé que j'ai raté mes études et j'étais en train de pleurer. Je me suis réveillé de ce rêve-là en train de pleurer.
Et puis, elle sait exactement ce qu'elle veut faire plus tard.
Dentiste. Juste pour prendre soin de nos dents et les dents de nos amis. Il faut avoir une bonne moyenne pour rentrer dans la faculté de médecine, pour être dentiste. Et moi, j'aimerais bien avoir une bonne note pour déjà avoir accès à cette faculté. En même temps, ce métier, ça m'attire.
Selon l'ONU, 97% des établissements d'enseignement de Gaza ont été détruits ou endommagés par les bombardements de l'État hébreu. Alors, pour que les enfants gazaouis puissent continuer d'apprendre, un an après le début de la guerre, le ministère de l'Éducation palestinien a lancé une application en ligne qui s'appelle Wise School et qui permet aux enfants gazaouis d'étudier en ligne. Il y a des cours et des exercices, mais encore faut-il qu'il y ait du réseau.
Puisque on est dans un endroit où il n'y a pas Internet, il y a certains qui distribuent Internet dans la rue. Donc on achète une carte, c'est-à-dire c'est un petit papier où il y a le nom du réseau et le mot de passe. Si ça marche, j'ouvre et je commence à étudier sur Internet les cours que j'ai à faire. Si ça ne marche pas, tant pis.
En plus, pour toute la famille, il n'y a qu'un seul appareil.
On a juste un seul téléphone et mon frère il passe son bac, donc c'est lui la priorité. Mais j'espère que la guerre va s'arrêter et du coup on va revenir en sécurité. Quand on est en sécurité, on peut reprendre l'école facilement.
La deuxième chose qui préoccupe Allah, c'est Loulou.
Je veux ma poupée. À cause des bombardements, j'ai pas pu réfléchir à ça. J'ai pris juste chacun son sac avec quelque chose et c'est tout.
Comment elle s'appelle ta poupée ?
Elle s'appelle Loulou.
Elle s'appelle Loulou, elle ressemble à quoi ?
C'est tout petit, on l'a cousu avec des éponges.
Sa poupée, elle m'en parle plusieurs fois. Un jour, je lui ai demandé ce qu'elle voudrait comme super pouvoir. Elle n'a pas parlé de guerre, de maison ou d'eau courante, même pas d'école. Elle a juste dit qu'elle voudrait sa poupée.
Je vais juste faire aller-retour avec ma poupée. Je suis très bien, je m'amuse très bien avec ma poupée. Je veux pas plus que ça.
C'est la dernière chose qu'elle me dira. Elle n'a rien trouvé pour la remplacer ou s'en refaire une.
Non, malheureusement, j'ai pas pu trouver quelque chose pour remplacer ma poupée. On n'a pas pu faire une autre parce qu'on n'a pas de coton, on n'a pas de tissu et surtout on n'a pas des aiguilles pour coudre une poupée.
Est-ce qu'il y a des petites choses qui arrivent à te procurer quand même un peu de joie en ce moment, Allah ?
Malheureusement, il n'y a plus de moments de joie. Les moments de joie, c'est quand papa nous amène en vadrouille. Maintenant, c'est plus le cas, donc il n'y a plus de moments de joie. Avant, chaque vendredi, mon père nous amenait le matin à la plage, on prenait notre déj à la plage, on se baignait, c'était des moments de joie. On sortait aussi des excursions avec l'école, avec les mosquées. Malheureusement, on a perdu ces moments-là, on n'a plus d'envie, plus de notre enfance.
Le 9 octobre 2025, quand le cessez-le-feu a été annoncé et la première phase de l'accord de paix lancée, au début, Allah était un peu contente. Mais c'est resté abstrait et ça a vite mal tourné. D'abord, l'un de ses grands frères, Saeb, a voulu aller voir par lui-même, dans la ville de Gaza, au nord, dans quel état se trouvait leur quartier de Tal el-Awa, et s'il y avait le moindre espoir d'y retourner. Non seulement il a bien vu qu'il ne restait rien, que les écoles, les maisons, les hôpitaux, tout était détruit, donc impossible de rentrer pour l'instant, mais il a été pris dans un affrontement entre le Hamas et des milices constituées pendant la guerre, sans doute le puissant clan d'Hormouche qui a investi la ville de Gaza. Et Saeb a pris 2 balles dans les jambes.
Il est à l'hôpital. Là, il a eu les balles à cause des clashs Hamas et des familles, hein, tu vois. C'est pas les Israéliens.
Ensuite, c'est Taher, son frère de 15 ans, celui qui ne veut pas prêter sa bicyclette, qui a été blessé.
Il était chercher de l'eau, il avait avec lui des jerrycans.
Et en marchant dans la rue, il y a une 4x4 qui est passée, qui l'a écrasée et elle est tombée par terre. Il y a un bon monsieur, il l'a secouru, il l'a amené chez nous et mon frère, il l'a amené après à l'hôpital. C'est une fracture au pied.
Mais Allah s'est quand même faite de nouvelles copines à Dar el Bala.
Ouais, j'ai rencontré de nouvelles amies et la majorité, ce sont les filles des médecins. Elles s'appellent Rahaf et Carmen. On joue au cache-cache et attrape-moi. C'est toujours entre les tantes. Parfois, ils viennent à côté de notre tante. Parfois, moi, je vais chez leur tante. Là où il y a un peu de l'ombre.
À force de ne jouer que ces jeux-là, je suis très professionnel maintenant.
La dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'Allah, c'était le 15 octobre. Elle est toujours sous sa tente, avec 17 personnes. Ses frères vont mieux, et tout ce qu'elle veut, c'est retourner à l'école.
Ce que j'espère, c'est que déjà tout ça s'arrête. On revient dans les écoles, on continue à étudier, on grandit. On aura un meilleur avenir, on peut être des bons citoyens. C'est ça ce que j'espère.
C'était Les Enfants de la Guerre, deuxième épisode avec Allah, avoir 10 ans à Gaza. Un reportage de Clément Baudet avec Rabbi Amoujamas, réalisé par Sylvain Richard. Merci bien sûr à Allah et à sa famille, à Arte Radio, à la famille de Marine Vlaovic et à Louise André. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel.